Genèse 22, je rajouterai le verset 4. Donc le troisième jour, Abraham leva ses yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses jeunes hommes, « Restez ici, vous, avec l'âne, et moi et l'enfant, nous irons jusque-là et nous adorerons et nous reviendrons vers vous. » Et ensuite aussi un passage dans Luc 23. Verset 47. Les centurions, voyant ce qui était arrivé, glorifiaient Dieu, disant, « En vérité, cet homme était juste. » Et toutes les foules qui s'étaient assemblées à ce spectacle, ayant vu les choses qui étaient arrivées, s'en retournaient, frappant leur poitrine. Et verset 49. Et tous ceux de sa connaissance et les femmes qui l'avaient accompagné, depuis la Galilée, se tenait loin, regardant ces choses. Voilà juste ça pour commencer. Alors dans le verset 4 de Luc 22, de Genèse 22, il y a des indices ici qui n'ont aucun intérêt si on se place simplement du point de vue de la vraisemblance du récit. Pourquoi nous est-il dit que ça a lieu le troisième jour? Pourquoi nous est-il dit, avant que Abraham ne vienne à cette montagne de Morija, qu'il vit le lieu de loin? Tout de suite avant cet épisode, le lecteur est rendu attentif à la perspective spirituelle, hein, bien sûr, qui est celle de ce récit. Il ne s'agit pas de raconter simplement les faits, mais il s'agit de les placer dans la perspective qui est voulue par Dieu. Le troisième jour dans la parole, c'est un indice qui revient très souvent et qui est associé bien sûr au temps que le Seigneur passa dans la mort. Hein? Le fait qu'Abraham vit le lieu de loin, quel est ce lieu qu'il vit de loin? C'est pas simplement la vue, disons, humaine, hein? Mais on peut bien penser que c'est une vue spirituelle. Dans le sens où ce lieu qui n'avait pas été désigné encore, vraiment, c'est bien le lieu que Abraham perçoit comme le lieu que Dieu lui désigne, hein, et dans lequel, bien sûr, il y a cette scène extraordinaire qui va se dérouler. Mais je voulais surtout, en m'appuyant sur la suite des deux versets que tu as lus ce matin, insister sur cette curieuse information qui nous est donnée. Abraham dit à ceux qui l'avaient accompagné, « Bon, vous restez là. Isaac et moi, nous allons sur la montagne. Nous adorerons et nous reviendrons. Nous reviendrons vers vous. » Ça aussi, c'est quelque chose quand même qui n'est pas vraisemblable. Hein, si on met les choses tout simplement à plat. Abraham savait qu'il aurait à sacrifier son fils. Pourquoi dit-il à ce moment-là que nous reviendrons? Il était seul avec Isaac. Là encore, c'est une lecture spirituelle ici qui nous est suggérée. Hein, c'est l'épître aux Hébreux qui nous donne en quelque sorte la clé, puisqu'il nous est dit qu'Abraham avait en quelque sorte la foi nécessaire pour comprendre que Isaac serait ressuscité, que Isaac serait préservé, hein, par Dieu lui-même. Voilà, ce qui nous donne à comprendre que toute cette scène est bien placée elle est écrite pour nous montrer que Dieu a sa main sur toute chose. Je voulais aussi, en rapport avec le passage que j'ai lu de Luc, insister sur cette position de témoin. Voilà des gens qui se tiennent au bas de la montagne où a lieu ce sacrifice. Est-ce qu'Abraham, quand il revient, parlera de ce qui s'est passé? Il dit qu'il adore, donc il met quand même ses serviteurs en situation d'être attentifs à un certain nombre de choses. et ce qui leur dit le contenu de ce qui s'est passé. On peut pas, on peut le supposer, mais on peut aussi l'écarter. Mais voilà des gens qui ont été au pied de la montagne et qui n'étaient pas loin de ce sacrifice. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont compris de ce qui s'est passé? Et cette remarque nous ramène justement au passage de l'évangile de Luc. Donc chapitre 23, verset 47, on a l'importance qui est accordée au verbe « voir hein, », le centurion voyant ce qui était arrivé. Là, sans conteste possible, le centurion est un témoin oculaire, un témoin direct de la scène de la crucifixion. Et il dit, glorifie Dieu, en vérité cet homme était juste. Et qu'il y a une première réaction ici, qui est mise en avant par ce passage, qui montre que ce témoignage eh bien, a une incidence directe sur sa foi. Il glorifie Dieu, il n'y a aucun doute sur la compréhension qu'il y a à avoir de ce qui s'est passé. Cet homme était juste, je pense, alors c'est rapporté autrement dans l'évangile de Marc. Dans l'évangile de Marc, on peut penser que c'est le même centurion. Centurion qui voit Jésus crucifié, puis qui dit ben certainement celui-ci est le Fils de Dieu. Voilà, là, il y a tout d'un coup une évidence qui est donnée par la foi. Et tout de suite après, on a d'autres spectateurs qui sont témoins aussi, qui sont assemblés à ce spectacle et qui ont vu les choses qui étaient arrivées, sont retournés, frappant la poitrine. Voilà, ils s'en retournent et se frappent la poitrine. Sans aucun doute, c'est une réaction affective extrêmement forte, qui tient compte de l'impact très fort de cette scène de la crucifixion. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Dans quel état d'esprit est-ce qu'ils retournent chez eux? Qu'ont-ils fait de cette scène qu'ils ont vue? Le texte ne le dit pas. Mais on peut bien penser, alors encore une fois, c'est une hypothèse qui a une sorte de contraste avec le centurion. Le texte de Genèse 2 nous laissait un peu dans le doute. Que font les serviteurs de ce qui s'est passé de cette scène sur Morija? Ici, cette foule revient, retourne chez elle, et puis, ils regardent les choses, ils se tenaient loin. Ça pose la question, bien sûr, de la distance que nous avons, nous, en tant que témoins par rapport à ces grands actes merveilleux de la justice de Dieu. Alors, je voulais rester sur ça, et puis en venir rapidement à un passage dans l'Exode, chapitre 14. Chapitre 14, et on pourrait commencer avec le verset 13. Chapitre 14, verset 13. Donc juste un mot sur ce qui se passe à ce moment-là. Les Israélites ont fui l'Égypte. Ils se retrouvent au bord de la mer Rouge avec derrière eux, dans le dos, les armées des Égyptiens, le pharaon qui s'est un petit peu repenti de les avoir libérés un petit peu rapidement. Et donc cette armée extrêmement puissante qui arrive, ces Israélites qui sont complètement dans une impasse, ils sont acculés. Pas possible de retourner en arrière, pas possible d'avancer. Moïse leur dit, verset 13, il dit au peuple, ne craignez point, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Cette délivrance, on la connaît, on connaît la suite, elle ne s'est pas encore produite. Simplement, Moïse ici les rend attentifs. Soyez de bons témoins. Regardez. Il y a quelque chose qui va se produire, qui est le fait de Dieu, la délivrance de l'Éternel. Délivrance qui va montrer que c'est Dieu, de manière unique, et le Dieu unique qui agit. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Tenez-vous prêts à regarder. On se posera la question après de savoir ce que l'on fait, nous, de ce qui a été vu. Juste avant de continuer, il y a deux réactions, là aussi, comme dans l'évangile de Luc. On pourrait lire un passage à partir de verset 24. À la fin du verset 24, « Dieu, l'Éternel, mit en désordre l'armée des Égyptiens, verset 25, et l'Éternel ôta les roues de leurs chars et fit qu'on les menait difficilement. Et les Égyptiens dirent, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. » La première intervention de Dieu, Dieu met un peu de désordre dans cette armée qui avance. Voilà, il y a les chars qui ne peuvent plus avancer comme il faudrait. Et les Égyptiens voient tout de suite, eux aussi, qu'ils n'ont pas été prévenus, mais que c'est la main de l'Éternel. Ce Dieu-là, il est du côté d'Israël. Il n'est pas pour nous. C'est pas la peine qu'on combatte. Et il fuit. Donc là, si vous voulez, ils sont aussi témoins oculaires de certaines choses, mais ça les amène en fait à se mettre totalement en retrait. Hein, et ne pas chercher à bien comprendre, pourrait dire, à bien interpréter, eh bien ce signe que Dieu leur envoie. Cette notation est à mettre en parallèle avec ce qu'il est dit par la suite au verset 30. « L'Éternel délivra en ce jour-là Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer, et Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et ils crurent à l'Éternel et à Moïse son serviteur. » Il y a une conclusion qui est magnifique là, hein, vous avez vu, dans tout le passage, ce paragraphe. On raconte les faits, voilà, ce que Dieu fait, intervient, défait cette armée. Et puis il y a cette délivrance annoncée par Moïse qui s'opère. Et le passage se termine par cette notation, ils crurent à l'Éternel. Hein, ils ont la foi. Ils ont la foi. Alors là, C'est quelque chose qui me paraît essentiel. Les récits de résurrection fonctionnent comme ça aussi. Hein. Dans le sens où Dieu produit, sous les yeux de ses témoins, dans une espèce de proximité totale, des événements qui ne laissent aucun doute sur leur interprétation. Et ce sont ces événements produits par Dieu, qui sont des actes merveilleux, ici, la délivrance, la crucifixion de Jésus, comme on l'a vu dans l'évangile de Luc, la résurrection, le tombeau vide dans les évangiles. Là, ce sont des actes merveilleux commis par la droite de Dieu, qui ne laissent aucun doute, qui écartent le doute, hein, et ce qui donne la foi. Hein. C'est-à-dire que Dieu, avec le Seigneur, a agi aussi de telle manière que nous ayons la foi par les choses qu'il accomplit. Ça, c'est, disons, à des moments seuils. Là, c'est le peuple d'Israël qui se constitue, qui est en train de naître, comme un peuple qui a conscience de sa délivrance, de son unicité, de sa délivrance, et qui est conforté, si vous voulez, dans cette conviction, parce que Dieu accomplit. Est-ce qu'il n'en est pas de même pour la crucifixion, la résurrection? Bien sûr que si. Dans ce sens-là, ce sont des moments fondateurs, absolument fondateurs. Qu'en est-il de nous? Ben, là, il y a des... La parole reprend cette question-là. Je vais m'appuyer sur les passages du livre des Nombres. Alors, dans le livre des Nombres, on pourrait prendre, situer le passage, en nombre 13. Thank you. Alors, je vais pas lire tout le passage. Peut-être le verset 2, chapitre 13. Commencez. L'Éternel parla à Moïse, disant « Envoie des hommes, ils reconnaîtront le pays de Canaan que je donne aux fils d'Israël. Vous enverrez un homme pour chaque tribu de ses pères, tous des princes parmi eux. » Ensuite, vous vous souvenez de la scène, je vais juste la résumer. On a donc ces espions d'Israël, parmi lesquels il y avait Josué, Caleb, qui sont envoyés dans ce pays promis, ce pays donné par l'Éternel, pour voir un petit peu comment allait se passer la conquête. Voilà, c'est quoi ce pays? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce pays? Est-ce que la conquête sera facile? Etc., etc. Alors, ils reviennent, Caleb et Josué prennent la parole, les autres espions aussi. Et voilà ce qui est dit, donc verset 28. Ils racontèrent à Moïse et dirent « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Vraiment, il est ruisselant de lait et de miel. Et en voici le fruit. Seulement, le peuple qui habite dans le pays est fort. Et les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous y avons vu aussi les enfants d'Abraham, d'Anak. Amalek habite le pays du Midi, le Sien, le Jébusien, l'Amorien habite la montagne. » Je continue. Caleb qui dit, milieu du verset 31, « Montons hardiment et prenons possession du pays, car nous sommes bien capables de le faire. » Mais, c'est un tournant extrêmement important, parce qu'il va y avoir deux points de vue radicalement opposés, mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, « Nous ne sommes pas capables de monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et plus loin, il est dit, « Oh là, ils accompagnent ce propos de certaines images. Le pays par lequel nous avons passé pour le connaître est un pays qui dévore ses habitants et tout le peuple que nous y avons vu et d'autres statures, etc. » Là, on est dans la foi, dans la problématique de la foi. Il y a deux regards qui sont portés sur ce pays. Dans le verset que j'avais lu, « Ils reconnaîtront le pays de Canaan que je donne aux fils d'Israël. » D'abord, une remarque sur le mot « reconnaîtront ». Si on le prend au sens littéral, on se trompe. Hein. Ils ne peuvent pas le reconnaître puisqu'ils n'y ont pas été encore. C'est évident. Ça veut dire quoi, ils le reconnaîtront? Eh bien, ils verront. Encore une fois, c'est une question de voir, hein, puisque tous ces espions ont vu un certain nombre de choses. Le problème, c'est le commentaire qu'ils en font, l'interprétation qu'ils en font. Ils reconnaîtront. C'est-à-dire, est-ce que ce pays que nous avons vu est bien conforme à la promesse que Dieu a faite, hein? Ou alors, est-ce que c'est autre chose? Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a promis. Josué et Caleb, quand ils parlent de ce qu'ils ont vu, ils disent « Ce pays, c'est un pays ruisselant de lait, de miel. C'est le pays que Dieu nous donne. » Là, il y a de la foi. Pourquoi? Parce que la foi ne va pas sans une part de promesse. La foi est intimement liée à la promesse. Ce que nous avons vu, c'est conforme à ce que Dieu a dit. Et c'est par la foi que nous pouvons en avoir la conviction. Pas avec les yeux de l'homme. Les autres, qui ne parlent pas de ce pays comme étant un pays que Dieu donne, ben le voient, oui, à travers les difficultés qui vont se poser. C'est une place forte, c'est un pays fort, il y a des géants, etc. Jamais on n'arrivera à le conquérir. Il y a une bataille à mener, on est trop faible. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, dans l'appréciation, ils ont écarté la promesse de Dieu. Et c'est dans ce sens-là, justement, qu'ils ne font pas appel à la foi, que leur foi est trop faible, et qu'ils n'ont pas de foi à ce moment-là, ou qu'ils font preuve d'incrédulité. C'est-à-dire que ce qui est donné à voir, ce dont nous sommes les témoins, Est-ce que cela fait partie vraiment de cette espèce de plan général de Dieu? Est-ce que nous pouvons y voir ce que Dieu a en réserve, en quelque sorte, pour chacun, pour nous, pour le peuple? Ou alors est-ce que nous nous tenons simplement aux faits eux-mêmes, de manière très, très factuelle, sans chercher à vraiment les comprendre et à ne voir finalement que ce qu'ils disent d'eux-mêmes? La foi est cette seconde vue, en quelque sorte, vue spirituelle qui permet d'aller au-delà et d'associer les choses à un projet, une intention qui sont du côté de Dieu. Ça change radicalement les choses. Alors, si on continue, chapitre 14, les fils d'Israël murmurèrent. Voilà le grand problème, en fait, de la foi, hein, le murmure. Ce qui revient un peu comme un leitmotiv ici dans le livre des Nombres, le murmure, qui est, c'est un autre mot qui est employé souvent dans ce livre, le reflet d'une attitude de rébellion. J'y reviendrai parce que c'est essentiel encore dans le rapport à la foi. Mais il murmure. Ce murmure, il a commencé, je dirais, très tôt, presque trop tôt dans l'histoire d'Israël. Souvenez-vous, Moïse s'est absenté, est allé à la montagne du Sinaï recueillir les tables de la loi. Le peuple, un petit peu abandonné à lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un veau d'or. Hein. Donc là, déjà, il y a un écart, si vous voulez, par rapport à ce que Dieu est, par rapport à l'alliance, la relation entre Dieu et le peuple qui est complètement biaisée, qui est faussée. Et là apparaît un schéma, je dirais, qui est reproduit plusieurs fois dans le livre des Nombres. Je veux dire par là que le peuple commet un écart, une faute grave. Moïse intervient. Ou d'abord, il y a Dieu qui dit, non, alors si c'est ça, on arrête tout, hein, c'est pas la peine. On arrête tout. Ce peuple que j'ai sauvé, qu'est-ce qu'il fait? Dès que Moïse a le dos tourné, eh bien, il se met à fabriquer des idoles. Continue pas. Moïse intervient et dit, non, tu peux pas t'arrêter là. C'est pas possible. Pour des arguments qui sont une grande subtilité, hein, c'est-à-dire que pense à l'image que tu vas avoir auprès des autres nations, etc. Tu vas te déjuger. Tu les délivres et après tu les abandonnes. Et que vont penser les autres de toi, etc., etc. Et Dieu revient sur sa première décision et puis finalement décide de continuer. C'est ce schéma-là qui se reproduit constamment dans le livre des Nombres. Et c'est en ça qu'il y a une leçon extrêmement forte que nous donne la parole. Le schéma, je le rappelle, on l'a ici encore une fois. Ben, Dieu voit que ce pays qu'il a donné, ben, les fils d'Israël n'en veulent pas. Qu'est-ce qu'ils disent, les fils d'Israël? Verset 4, « Établissons un chef et retournons en Égypte. » On enlève Moïse, on met un autre chef, non pas celui que Dieu a désigné, et puis on revient en arrière. Voilà. Donc c'est, je reviendrai tout à l'heure. Et puis Dieu intervient et il dit, verset 11, c'est toujours dans ce schéma, dans ce scénario, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il et jusqu'à quand ne me croira-t-il pas après tous les signes que j'ai faits au milieu de lui ?» Voilà la question fondamentale. Et il dira, c'est repris par la suite, verset 22, c'est toujours l'Éternel qui parle, « Car tous ces hommes qui ont vu ma gloire et mes signes que j'ai faits en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté ces 10 fois, et qui n'ont pas écouté ma voix, s'ils voient le pays que j'avais promis par serment à leur père, aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. » Donc Dieu, si vous voulez, réagit extrêmement fortement face à cette manifestation d'incrédulité. Le peuple dit, on ne veut pas de ce pays, on revient en arrière, c'était mieux avant, etc. Et Dieu a dit, mais quel peuple, quel drôle de peuple qui me méprise par ces paroles-là. Pourquoi, et Dieu va agir par la suite en châtiment par la suite, de manière extrêmement sévère. puisqu'il y a une génération qui va mourir dans le désert. Cette question du châtiment est intéressante d'ailleurs. Extrêmement intéressante parce que on peut se demander pourquoi est-ce que Dieu agit de manière aussi forte. Pourquoi est-ce que le châtiment ici n'a pas d'autre mot effectivement que le châtiment? Est-ce que Dieu est un Dieu de châtiment? On le pense des fois un peu par une sorte de raccourci, hein, comme la finalité, le jugement de Dieu est une finalité en soi. Non. Le jugement est toujours à intégrer dans une perspective éducative, pédagogique. Ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen par lequel Dieu invite les siens à prendre conscience de leur écart, de leur infidélité et à revenir. Hein, c'est ça là. C'est dans ce cadre-là qu'il faut intégrer le jugement. Alors qu'est-ce que cherche Dieu ici? Pourquoi ces châtiments? Parce qu'en plus, cette scène, elle va se reproduire, je l'ai dit tout à l'heure, 7 fois. Il y a 7 rébellions dans le livre des Nombres, si j'ai bien compté, si je me souviens bien. 7 fois où le peuple se rebelle, Dieu se met en colère, est prêt à tout arrêter, Moïse intervient, et puis finalement, il y a un acte de repentance. Ça, c'est quelque chose de très schématique, et qui interroge en soi, et qui, à mon sens, contient en soi la clé de lecture. Pourquoi est-ce que Dieu est-il aussi sévère ici? Eh bien parce que le fait de refuser le pays que Dieu donne. Rappelons au passage que ce pays est très rarement défini comme une zone géographique. Hein, ce n'est pas quelque chose qui est facile à localiser sur une carte. Non, c'est présenté par Dieu comme le pays qui est donné. C'est l'expression même du don de Dieu. Et qui nous ramène à celui qui donne, à la main de Dieu. C'est plus que ça, hein, d'accord? C'est l'expression même d'une... C'est un acte de bonté que Dieu a à l'égard des siens. Le pays que je donne. Ensuite, c'est un pays ruisselant de lait et de miel. Ça aussi, c'est une expression un petit peu systématique qui est collée à ce mot pays. Ruisselant de lait et de miel, ruisselant. Il y a bien une idée de surabondance ici. On est encore une fois du côté de Dieu, du lait, du miel. Voilà, ça nous parle des bénédictions qui sont prêtes à être déversées. Donc, quand le peuple ne veut pas de ce pays. C'est pas juste un achat immobilier, hein, ça n'a rien à voir avec ça. C'est qu'il remet fondamentalement en cause le projet même de Dieu. Et à travers ce projet, un caractère même de Dieu. C'est pour ça que c'est si grave. Et c'est pour ça, encore une fois, à travers cette question du pays, c'est bien ce qui est en jeu, la question de la promesse. C'est bien pour ça que la foi est associée à la promesse. Depuis Abraham. Abraham aussi, Dieu lui dit, voilà, le pays que je te donnerai. Abraham ne le voit pas, ce pays. Hein, mais il est dans l'attente de quelque chose que Dieu va lui montrer. Là, on est dans la foi, l'attitude typique de la foi. Prendre quelque chose, prendre possession de quelque chose qui n'existe pas encore, si ce n'est virtuellement, parce que la foi s'en saisit. Et cette chose est vivante tout simplement parce que Dieu l'a promise. C'est ça la foi. Alors Abraham attendra. Hein. La foi est faite d'attente. C'est Isaac qui ne vient pas. Et puis Dieu lui montre, va donc dehors, regarde les étoiles. Il regarde les étoiles, et puis là il comprend. Là on est justement dans l'attitude, encore une fois, typique de la foi. Ces signes, ces étoiles sont des signes, comme il est dit dans notre passage. Ces signes que Dieu a montrés plusieurs fois, et qui sont interprétés, qui sont lus, par celui qui a la foi, comme justement des rappels de cette promesse. La promesse, elle va venir, elle n'est pas maintenant encore, Mais et confiance et la foi, ça va se manifester en son temps. Voilà, la foi est faite de cette attente et de cette confiance dans une promesse qui n'est pas encore effective, qui n'est pas encore là. Et c'est encore une fois, je reviens sur ce passage là de Nombre 14, c'est bien ce que Dieu reproche. Après tous les signes que j'ai faits au milieu de lui. Combien de fois ce peuple a été témoin oculaire de ce que Dieu a fait? Alors la délivrance de la mer Rouge, nous l'avons vu, la manne, le rocher, etc., etc. C'est-à-dire que là, il y a des signes. C'est intéressant le mot « signe » parce qu'il renvoie, on a la même chose dans l'évangile de Jean. Hein, les signes. Les signes, quelqu'un a expliqué justement que c'est différent de la preuve. La preuve, c'est voilà, un fait qui vient appuyer un argument. Je dis quelque chose, une pensée, et la preuve, eh bien, elle vient illustrer l'argument. Ça, c'est la preuve. Le signe, c'est pas ça. Le signe, c'est quelque chose qui demande à interpréter. Les étoiles dans le ciel, c'est le signe de quelque chose. De quoi? Ah, ben, je mets ça en relation avec la promesse de la semence. Voilà. Là, tout d'un coup, ce que je vois eh bien, se charge d'une signification parce que le regard de foi que j'ai fait qu'il se charge de cette signification. Là, on est dans une dynamique de foi. Vous voyez, la foi consiste à voir justement cette sorte d'attitude. Et on voit dans le livre des Nombres, alors c'est un livre qui est gris, hein, on ne peut pas dire le contraire, qui est assez sombre quand même. Eh bien, on voit que les Israélites ont du mal, énormément de mal, à rentrer dans cette dynamique de foi. Beaucoup, beaucoup de mal. Mais bon, la parole nous parle. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils sont omnubilés, parce qu'ils ont la vue un petit peu courte par moment, et puis ben, ils ne voient pas les choses comme il faudrait les voir. Hein. Voilà, ce sont des choses qu'ils reçoivent en pleine figure, et puis ils n'arrivent pas à voir autre chose. Mais en même temps, alors on parlait de Dieu jugement, soit Dieu est Dieu, Dieu juge, ça n'a scandalisé personne, ce sont ses prérogatives. Et on n'a pas trop non plus à se mêler, disons, des motifs qui peuvent pousser Dieu à agir de cette manière. Ça c'est clair, mais ne l'enfermons pas non plus dans cette représentation. Je dirais que l'enseignement fondamental, enfin que j'aime à lire moi dans ce livre des nombres, c'est quoi? Ben, il y a eu tant de temps et de manifestations de l'incrédulité de Dieu, cette foi, cette rébellion, et Dieu continue avec son peuple. Donc j'y verrai davantage aussi et surtout la fidélité de Dieu, une bonté de Dieu qui passe par-dessus les faiblesses du peuple. Alors, ces faiblesses sont jugées, je suis d'accord. Mais ça ne s'arrête pas au jugement de ces faiblesses. Ça continue avec ce renouvellement de l'Alliance. On ne soulignera jamais assez aussi le rôle de médiateur de Moïse dans cette situation. C'est-à-dire que si Moïse n'intervenait pas, eh bien, on pourrait penser, alors c'est une hypothèse, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, mais que Dieu s'arrêterait là. Mais parce que Dieu prête l'oreille, alors pas forcément seulement à Moïse, mais à un médiateur. Voilà, médiateur. Jésus aussi qui est le médiateur pour que bien quelque chose comme le peuple, ou qu'un peuple de Dieu soit à naître et puisse exister. Voilà, c'est cette parole du médiateur qui a une influence sur Dieu et qui font que Dieu apparaît aussi comme le Dieu de bonté, comme le Dieu qui pardonne, comme le Dieu qui donne. Alors, je voudrais juste peut-être... Je parlait de voilà, ces sept rébellions, ces sept scènes qui se succèdent. Il y a quand même une scène dans le livre des Nombres qui est, je dirais, d'une fulgurance absolue, parce qu'elle est totalement inattendue, parce qu'elle semble même complètement en décalage de ce que ce livre nous raconte. C'est la scène avec Balaam. C'est au chapitre 24. On va lire juste un petit extrait. Alors là aussi, peut-être deux, trois mots sur la situation. Vous avez Balak, qui était un roi. De Moab, peut-être, je ne sais plus. Ça doit être dit dans le passage, je ne m'en souviens plus. Bref. Le roi Balak entend, voilà, c'est une rumeur qui précède l'avancée des fils d'Israël. Et là, il a un peuple qui s'avance, qui est dans le désert, qui est capable de tout combattre et de tout vaincre sur son passage. Donc il a peur. Hein. Voilà, ça n'annonce pas, ça sent pas bien les choses. Et qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il fait appel à un prophète païen, Balaam, pour qu'il maudisse le peuple de Dieu, une sorte de devin, voilà, qu'il use de son pouvoir, une espèce de pouvoir un peu divinatoire, pour que ce peuple de Dieu soit maudit, hein, et puis pour que ce peuple dont il est le roi soit ainsi préservé. Alors il y a cette chose absolument étonnante, c'est que Balaam est invité par le roi Balak à aller sur une montagne pour voir le peuple. En bas, le peuple d'Israël. Ce qu'il voit, c'est assez proche, j'ouvre une parenthèse, c'est d'ailleurs pour ça que le spectacle aussi ici, ce dont il est le témoin, est quelque chose qui le bouleverse. Ce qu'il voit est assez proche de ce que nous décrit le premier livre des Nombres. Vous savez, le premier livre des Nombres, Dieu donne des instructions quant à l'organisation de son peuple. Voilà, il y aura quatre tribus à tel endroit, quatre autres à tel autre, et puis la tente d'assignation, voilà, au milieu. Donc il y a une organisation, si vous voulez, qui est pensée par Dieu, qui est donnée aux ordres, comme un ordre, et que les hommes suivent. Il y a ici, si vous voulez, le peuple se distingue des peuples des nations par le fait qu'il applique de manière unanime quelque chose qui est de l'ordre de Dieu. Cette organisation, elle parle, hein, serait-ce que parce que la tente d'assignation est au centre, et au centre de tout. Hein, c'est un des éléments, il y en a d'autres. Bref, Balaam voit, depuis les hauteurs où il est, ben, le peuple qui est en bas, il voit les tentes, il voit cette organisation. Alors lui qui avait été engagé pour dire du mal, pour maudire, eh bien, il dit des choses qui sont contraires à ce pourquoi il avait été engagé. Et il dit, fin du verset 3, il proféra son discours sentencieux et dit, Balaam, fils de Béor, dit, et l'homme qui a l'œil ouvert, dit, qui a l'œil ouvert. Voilà, voir, celui qui veut bien voir. Hein. Celui qui entend les paroles de Dieu, qui voit la vision du Tout-Puissant qui tombe, qui a les yeux ouverts, dit, que tes tentes sont belles, ô Jacob, et tes demeures, ô Israël. Comme des vallées, elles s'étendent comme des jardins auprès d'un peuple, d'un fleuve, comme des arbres d'aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres auprès des eaux. L'eau coulera de ses sous, et sa semence sera au milieu de grandes eaux, et son roi sera élevé au-dessus d'Agag, et son royaume sera haut élevé. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, il a comme la force des buffles. Il dévorera les nations, ses ennemis, il cassera leurs os et les frappera de ses flèches. Il s'est courbé, il s'est couché comme un lion et comme une lionne qui le fera lever. Bref, il y a ici une espèce de... Voilà, c'est un passage très poétique, hein, mais que l'on peut bien sûr interpréter. Pour le lire, pour bien le comprendre, il faut déjà remarquer que Balaam ne dit pas du tout ce qu'il avait à dire. Hein, il devait maudire le peuple. Qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, il commence par dire que tes tentes sont belles, ô Jacob. Il est émerveillé par ce qu'il voit. et voit ce peuple qui est là, ce peuple qui n'a pas voulu entrer dans le pays que Dieu donnait, ce peuple qui s'est rebellé à plusieurs reprises, qui a murmuré, murmuré, murmuré. Il y a un beau verset où ce verbe est rappelé trois fois dans un seul verset, pour dire à quel point la parole souligne, enfin, se plaît à le relever. Eh bien, ce peuple-là, dont on a lu l'histoire, c'est d'histoire sombre, triste, assez noire par moments, et peu engageante, finalement. Eh bien, ce peuple, il le voit avec d'autres yeux, lui qui a l'œil ouvert, lui qui devient le témoin oculaire de quoi ? Eh bien, d'une parole que Dieu lui dicte. Hein, retenons bien ça. Ce qu'il dit ici n'est rien d'autre que le prolongement, en quelque sorte, de ce que Dieu voit et de ce que Dieu aimerait qu'on voit aussi quand on considère le peuple. Alors, je le répète, c'est complètement inattendu ici dans ce livre. Hein. C'est complètement en décalage avec les expériences qui sont rapportées. Voilà, mais Dieu a néanmoins cette force de fidélité, ou cette fidélité extrêmement puissante, hein, qui va au-delà des revers, au-delà des ratages, de tous ces échecs, pour poursuivre le peuple et puis pour le voir comme ce peuple que Dieu va conduire jusqu'au bout. Hein, il y a des futurs ici. L'eau coulera de ses seaux. Sa semence sera au milieu de grandes eaux. Lui qui se plaignait dans le désert de ne pas avoir d'eau, à plusieurs reprises, eh bien, il est promis, si vous voulez, à cette abondance, à cette semence. Hein, donc vous voyez qu'il y a quelque chose aussi qui dépasse le réel, qui encore une fois est ce regard, hein, qui va au-delà du réel, de ce que l'on peut avoir sous les yeux, mais qui est l'expression d'une foi, d'une confiance, hein, que Dieu nous invite à voir. Voilà. On aurait pu continuer avec ce beau passage. Allez, juste peut-être pour le lire. Oui, c'est dans Deutéronome 26. Deutéronome 26, verset 1er. C'est un passage qui parle du pays. Quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, et que tu le posséderas, y habiteras, alors tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre que tu tireras de ton pays, que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour faire habiter son nom. Je m'arrête là. Mais voilà, chacun pourra le lire jusqu'à la fin du paragraphe. On peut être attentif au nombre de fois où le mot « donné » ici est répété. Il y a à la fois, quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Hein, le pays donné par Dieu, mais ce qu'il dit aussi par après, c'est que les fruits qui seront produits dans ce pays sont eux aussi des fruits que Dieu donne. Voilà, tout est de Dieu. C'est important aussi pour nous, parce que ça, je crois que c'est un, comme dirait l'autre, c'est un gros dossier pour chacun. Parce qu'on peut avoir soi-même, quand on est actif, quand on a son petit service dans son coin, l'illusion, ben oui, qu'il y a quand même pas mal de choses par lesquelles, finalement, les choses adviennent, mais un peu grâce à moi. Voilà, on peut avoir cette illusion. Hein? En fait, là, non. Dieu donne. Il donne aussi les fruits. Ce qui n'est pas un encouragement, bien sûr, à la passivité, mais qui nous dit quelque chose d'essentiel. Alors, je ne sais pas si j'arriverai bien à l'exprimer, mais nous avons toute liberté, bien sûr, pour nous engager, pour nous impliquer dans un travail pour Dieu. Mais Dieu intervient aussi dans ce que nous faisons, hein, comme celui qui mène les choses à terme et qui font que ces actions deviennent aussi des fruits. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Hein, nous ne nous endormons pas dans l'illusion que voilà, nous avons à prendre l'étendard, à agir en tant que militant, pas dans l'Assemblée, je crois pas. Hein, c'est, les choses sont trop sérieuses. Voilà. C'est pas ce type d'engagement-là, disons, qui est recherché par Dieu. Alors c'est extrêmement difficile, hein, bien sûr, mais en même temps, c'est cette espèce de voie voilà, qui est ouverte par, par ce passage-là. Hein, Dieu qui donne les fruits. Comme il avait pu donner à Abel ce sentiment d'offrir de tels fruits. Hein, là, encore une fois, il y a comme une espèce de ressort intime que Dieu agit, ou fait agir, dans la louange aussi. Hein, la différence avec Caïn, c'est que ben lui, Caïn, il avait vu faire son frère, il a dit « Ouh là là, moi, il faut que je fasse pareil, quoi. » Le motif n'était pas du tout le même. Hein, et ce qu'il a donné, ben, ce n'est pas quelque chose que Dieu avait pu produire dans son cœur. On voit dans l'exemple d'Abel et Caïn à quel point c'est extrêmement important. Parce que c'est pas juste une question de degré, non. C'est fondamentalement quelque chose qui engage une relation différente avec Dieu. Hein, et la fin d'Abel n'est évidemment pas la même que la fin de Caïn. Voilà, ce pays que Dieu donne. Hein, ce qui nous incite, qui est une invitation à entrer en possession, voilà, mais en possession de ce que Dieu donne, ce qui est tout à fait différent. Hein, à devenir les propriétaires de ce que Dieu donne. Hein, voilà, et par là même, c'est entrer un petit peu dans la nature même du Dieu de bonté. Voilà, c'est quelques remarques qui concernent la foi, l'attitude de la foi.